Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Baben Pongo Massimango.
À Kinshasa, à Brito-Puisière, les états généraux des postes et télécommunications sont jusque demain. Les experts élaborent une feuille de route pour établir la connectivité des 145 territoires. C'est le chef de l'État qui a lancé ces travaux. Après Paris et Ankara, le vice-premier ministre de la Défense nationale séjourne depuis dimanche au Botswana. L'objectif est le même, consolider notamment les partenariats stratégiques dans les domaines militaires et techniques. Après des mois passés au Burundi, les Congolais qui ont opté pour le retour volontaire au pays commencent déjà à rentrer à Uvira. Un premier convoi de 470 personnes est arrivé jeudi dans cette ville du Sud Kivu. Ce retour était au centre du débat entre les intervenants d'un dialogue entre Congolais d'hier lundi. Leur réaction dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Nous commençons par l'ouverture hier lundi à Kinshasa des états généraux du secteur des postes et télécommunications avec comme thème postes et télécommunications, vecteur de la croissance économique et de développement. Pendant 3 jours, soit jusque demain 29 avril, des experts réfléchissent sur comment relever les défis dans ce secteur. Ils élaborent en même temps une feuille de route stratégique nationale à court, moyen et long terme. L'objectif est d'établir la connectivité des 145 territoires, réduire les fractures numériques, soutenir la forme légale et une réglementation profonde. C'est le président de la République qui a ouvert ses assises. Richard Junior Kamunga a ouvert cet événement pour nous et nous propose cet extrait du discours de Félix Tshisekedi.
Dans ce monde en mutation accélérée, aucun pays ne peut prétendre à la croissance, à la compétitivité ou à la souveraineté en restant qu'en marge des grands flux numériques, logistiques et informationnel. Il nous revient donc d'ériger le numérique, les télécommunications et la modernisation postale en levier stratégique de notre développement national. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre ambition de faire de la République démocratique du Congo une nation digitale à l'horizon 2030 en cohérence avec les priorités du gouvernement. Le secteur des postes de télécommunications est d'aujourd'hui à l'intersection de plusieurs enjeux majeurs. Il est d'abord un enjeu de connectivité territoriale. Dans un pays continent comme le nôtre, relier les territoires, connecter des provinces, désenclaver les zones rurales et rabroger les citoyens des services essentiels est une exigence de cohésion nationale.
Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans la province du Maniema, plus de 200 chefs d'établissement de la sous-division urbaine de Kasuku participent depuis lundi à un atelier de formation. Ces assises de 3 jours portent notamment sur l'élaboration du plan d'action opérationnel sensible au genre. Le sous-préfet de la sous-division urbaine de Kasuku appelle les participants à l'assiduité afin de produire à la fin de ces assises un document qui reflète les réalités du terrain. Bernard Djunga-Machaka est au micro de Florence Kizalunga.
C'est juste pour améliorer le travail parce que nous avions constaté qu'il y a encore des problèmes dans les écoles. Alors, on ne doit pas laisser ces problèmes inaperçus. Et comme nous sommes au cours de l'année, voilà le pourquoi nous avions réfléchi à travers nos visites d'itinérance lorsqu'on a constaté des problèmes du plan d'action opérationnel. Voilà le pourquoi que nous réunissons tous les chefs d'établissement de notre juridiction pour leur donner des notions pratiques essentielles afin qu'ils puissent élaborer leur plan d'action opérationnel selon la stratégie sectorielle de l'éducation. Ce plan d'action servira de faire le suivi des activités scolaires. Donc, chaque chef d'établissement, vous savez, après avoir planifié, c'est alors qu'on va vérifier lors de la revue annuelle des performances. Parce que à la revue annuelle des performances, on va commencer d'abord à évaluer les plans d'action opérationnels. C'est ainsi que nous invitons les chefs d'établissement d'être assidus durant ces 3 jours pour produire un plan d'action opérationnel rationnel aux réalités du ministère.
Le vice-premier ministre de la Défense nationale séjourne depuis dimanche au Botswana. C'est dans le but de consolider le partenariat militaire entre Kinshasa et Gaborone. Sur place, Guy Kabombo, moi d'invite à échange avec son homologue Moïti Moassa, ministre d'État à la présidence chargée de la Défense et de la Sécurité. Des discussions autour des questions liées à l'expertise militaire et au développement des partenariats techniques. Des détails avec Blaise Ndongala.
Après une tournée européenne marquée par des étapes à Paris et Ankara, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale poursuit son offensive diplomatique sur les continents africains avec pour objectif de consolider des partenariats stratégiques. Cette étape africaine illustre la volonté du gouvernement congolais de diversifier ses alliances militaires et d'ancrer davantage sa stratégie sécuritaire dans une dynamique de coopération continentale. Le déplacement de Guy Kabombo Moyavita de Gaborone s'inscrit dans la continuité de la coopération entretenue entre la RDC et le Botswana depuis plusieurs années. Lors de la visite du président Félix Tshisekedi à Gaborone en mai 2023, les deux pays avaient mis l'accent sur la nécessité de passer d'une économie d'exportation des matières brutes à une économie de transformation locale. Le Botswana, en tant que membre influent de la SADC, soutient les efforts de paix et l'engagement des troupes régionales en vue de stabiliser les zones de conflit en RDC. L'ouverture d'une nouvelle ambassade de la RDC à Gaborone en 2023 symbolisait déjà ces rapprochements diplomatiques durables entre les deux pays.
Au Nord Kivu, des dizaines d'habitants ont été victimes de pillages lors d'une incursion d'hommes armés la nuit de dimanche, ailleurs lundi, au village de Kiuma, groupement de Boabo, territoire de Masisi. Selon des sources administratives locales, l'attaque s'est produite entre 20 et 22 heures locales. Des hommes armés non autrement identifiés ont fait irruption maison par maison au quartier Katoy, au centre de Kiuma, sémant la panique au sein de la population. Précision avec Benjamin Moudoumbi.
Des machines à coudre, des habits, de l'argent ainsi que d'autres biens de valeur ont été emportés par les assaillants. Les sources de la notabilité locale les rapportent également l'enlèvement des deux jeunes garçons au cours de cette même incursion. Jusqu'à présent, leur destination reste inconnue. De son côté, la société civile locale de Boabo dresse un bilan alarmant de la situation sécuritaire. Elle affirme qu'au moins 15 civils ont été tués par balles en l'espace de mois lors des différentes attaques menées par des hommes armés dans plusieurs agglomérations dont cette entité coutumière. C'est notamment Ndété et Machaki, le dernier incident ayant coûté la vie à 5 civils, parmi lesquels un enseignant, un nourrisson et sa mère est survenu vendredi dernier. La société civile dénonce ces violations répétées des droits humains et du droit international humanitaire dans cette zone sous occupation de la FCM23, mais où opèrent également plusieurs autres groupes armés. Selon cette structure citoyenne, les groupes des Boabo, comme d'autres du secteur au Banyungu se trouve depuis plusieurs mois au cœur d'un cycle de violences, de pillages et d'affrontements impliquant des groupes rebelles et des milices Wazalendo.
En Ituri, plusieurs attaques attribuées aux miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP, sont signalées depuis la fin de la semaine dernière contre des civils et des services de sécurité dans le territoire de Djougou. Selon des sources locales, deux agents de la Direction Générale de Migration ont été pris en otage au village Kaou. Trois autres déplacés du site de la plaine de Savo ont été blessés lors de ces attaques perpétrées par des individus armés. Des sources sécuritaires rapportent également que des miliciens ont tendu une embuscade contre une patrouille des FARDC, notamment Adna. Trois militaires ont été tués et leurs armes emportées. Ces exactions de la CRP continuent d'aggraver la situation humanitaire dans la zone, provoquant une nouvelle vague de déplacement des populations. Les autorités coutumières locales ainsi que les notables appellent le gouvernement à intensifier les opérations de traque contre ce groupe armé afin de stabiliser ce territoire où les conflits armés persistent depuis 2017. Dans la commune de Nonsele, ici à Kinshasa, les habitants des quartiers Sikotra, Lokali et Montele sont de nouveau confrontés à une situation sécuritaire préoccupante. Après un retour au calme observé la semaine dernière, la nuit de dimanche à hier lundi a été marquée par des incursions d'hommes armés, ce qui a ravivé des inquiétudes au sein de la population locale. La peur a de nouveau gagné les esprits et plusieurs habitants affirment passer leur nuit dans l'angoisse, redoutant de nouvelles attaques. Face à cette situation, les appels au renforcement des dispositifs sécuritaires ne cessent de se multiplier. Christian Makasinga nous relate les faits.
C'est entre 2h12 et 4h35 minutes que plusieurs habitations ont été ciblées dans le quartier Sikotra, Lokali et Montele. Selon les témoignages recueillis, les assaillants ont opéré avec méthode brisant vitres et ouverture avant de contraindre les occupants à remettre argent, téléphone et autres biens de valeur sous la menace d'armes à feu.
Ils ont cassé la vitre d'une fenêtre et ont contraint les occupants à leur remettre de l'argent, des téléphones et d'autres biens. Comme il s'agit de maisons de location, ils ont procédé pièce par pièce. Dans une autre chambre, ils ont trouvé un jeune garçon à qui ils ont exigé son téléphone, qu'il a dû le remettre par la fenêtre sous la menace d'une arme. Ils l'ont menacé de le tuer s'il ne s'exécutait pas. Ensuite, ils sont allés dans d'autres maisons où ils n'ont trouvé que des enfants. C'est après leur passage qu'un élément de la police est intervenu et a tiré deux coups de balle.
Les habitants encore sous le choc appelle à une intervention urgente des autorités pour sécuriser durablement la zone.
Ainsi, nous continuons toujours à lancer l'alarme aux autorités compétentes, en commençant par les bourgmestres, qui puissent nous venir en aide pour que des dispositions soient prises pour renforcer la police en hommes et en matériel, et aussi les matériels de communication pour qu'ils puissent intervenir chaque fois qu'il y a un cri d'alarme dans la communauté.
Contactés, les bourgmestres affirment ne pas être encore informés de cette situation. En attendant une réaction officielle des autorités locales, la population reste sous les qui-vive redoutant de nouvelles incursions nocturnes.
Toujours dans la capitale, la présence croissante d'enfants mineurs employés comme percepteurs de tickets inquiète plus d'une personne. Ces enfants travaillent à bord des bus, taxibus et tricycles, alors qu'ils devraient être à l'école. Exposés aux accidents, aux violences et à l'exploitation, ces mineurs voient également leur avenir être compromis, faute d'un bon encadrement. Michel Langoy, expert à la Commission nationale de droits de l'homme, alerte sur cette situation. Il appelle les autorités compétentes à renforcer les contrôles et à protéger les droits de ces enfants. Il explique sa démarche au micro de Jérémy Baraka.
Des enfants sont exposés chaque jour à des dangers extrêmes sur nos routes. Ils sont privés de leur droit fondamental à l'éducation, à la protection et à une enfance digne. Cette situation constitue une atteinte directe aux droits humains. Les enfants ne doivent jamais être utilisés comme main-d'œuvre dans les activités à haut risque. J'appelle les parents, les responsables du secteur, les autorités à mettre fin immédiatement à cette pratique illégale. Protéger l'enfant, c'est protéger l'avenir de notre nation.
Une nouvelle unité paramilitaire dédiée à la sécurisation du secteur minier vient d'être créée en République démocratique du Congo. Baptisée Garde des mines, elle est mise en place par l'Inspection générale des mines, IGM, afin de protéger l'ensemble de la chaîne d'exploitation des minerais sur le territoire national. Selon un communiqué publié hier lundi, 20 000 agents seront formés pour assainir le secteur et lutter contre les pratiques contraires à la bonne gouvernance, à la transparence et à la traçabilité des minerais. Que retenir au sujet de cette Garde des mines, John Chibobois?
Selon les communiqués, financés à hauteur de 100 millions de dollars, ces projets s'inscrivent dans le cadre du partenariat stratégique entre les États-Unis, les Émirats Arabes Unis et la RDC. L'inspection générale des mines précise que les recrues seront déployées dans 22 provinces. Elles suivront un programme d'entraînement de 6 mois élaboré en collaboration avec la maison militaire et seront équipées de matériel de dernière génération. Les communiqués précisent que la garde des mines aura pour mission principale la sécurisation des sites miniers sur l'ensemble du territoire national, les convoyages sécurisés des minerais depuis les zones d'extraction jusqu'aux unités de traitement et aux postes frontaliers. Le remplacement progressif des forces de défense actuellement déployées dans des zones minières. En ce qui concerne le calendrier des mises en œuvre, l'UGM annonce un déploiement progressif. Mai 2026, lancement du recrutement sans distinction des genres. Juin à décembre 2026, formation de la première promotion, suivie du déploiement d'un premier contingent de 2500 à 3000 agents. 2027, sécurisation prioritaire du Grand Katanga et de la Grande Orientale. 2028, extension de la garde des mines sur l'ensemble du territoire national.
Santé, la campagne de vaccination contre la poliomyélite édition 2026 s'est officiellement achevée dimanche dans les aires de santé de la ville de Beni, au Nord Kivu. Sur le terrain, la sensibilisation menée par les équipes sanitaires a permis de réduire les cas de résistance observés chez certains parents, notamment dans l'aire de santé de Kassabignolé. Malgré ces avancées, si la couverture vaccinale reste encore insuffisante dans cette zone, les équipes comptent désormais sur les journées de rattrapage pour atteindre les enfants non vaccinés. Marc Maroufimbo.
Dans l'aire de santé de Kassabignolé, plus de 10 000 enfants étaient attendus pour cette campagne. Dans plusieurs quartiers, notamment Gbadou, Mouzambaye et certaines cellules de Boïkéné, des poches de résistance avaient été enregistrées au début de l'opération. Selon les équipes de vaccination, ces refus initiales s'expliquaient en grande partie par un manque de formation chez certains parents inquiets des effets du vaccin. Mais grâce aux actions de sensibilisation menées sur le terrain, plusieurs d'entre eux ont fini par accepter de faire vacciner leurs enfants, comme en témoignent ses parents.
Premièrement, j'ai peur de vacciner les enfants parce que pour les vaccins, il y a des problème de santé, mais je pense que ça n'aura pas beaucoup de problèmes. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes et j'espère que l'enfant sera toujours en bonne santé.
Pour le docteur Janvier Kambale, responsable de l'aire de santé de Kassabignolé, la mobilisation doit se poursuivre, notamment pendant les jours de rattrapage.
Il y a eu une sensibilisation à travers les mégaphones et par les recos mobilisateurs. Aujourd'hui, le nombre n'est pas encore bien connu, mais on est en train de visiter les équipes et on comprend qu'il y a déjà des enfants qui sont vaccinés, mais le nombre n'est pas bien identifié dans l'aire de santé de Kassabignolé.
Des jours supplémentaires ont en effet été accordés pour vacciner les enfants non couverts et renforcer leur protection contre la poliomyélite. Beni Marc Marufimbo, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au moins 42 personnes ont été tuées dans l'est du Tchad après qu'un affrontement entre deux familles au sujet d'un point d'eau a dégénéré en une spirale de représailles. C'est ce qu'a déclaré dimanche soir le vice-premier ministre du pays, cité par Africanews.fr. Liman Mahamat a indiqué lors d'une visite au village d'Igor dans la province du Wadi Fira, près de la frontière avec le Soudan, où les affrontements ont eu lieu samedi, que 42 personnes avaient été tuées et 10 blessées. Il a précisé que les blessés avaient été évacués vers le centre de santé provincial.
L'invité.
Un premier convoi de 470 réfugiés congolais en provenance du site de Ruigi au Burundi est arrivé jeudi à Uvira dans la province du Sud Kivu. Ces rapatriés volontaires ont été accueillis au site de transit de Kavimvira, situé non loin de la frontière entre la RDC et le Burundi. Cette question a été au centre des débats entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi. On les écoute ici au micro de Guy Maté.
Jean-Jacques Porossi, vous êtes gouverneur de la province du Sud Kivu. Comment vous réagissez au retour de ces réfugiés congolais à Uvira en provenance du Burundi?
Je suis ravi, nous sommes tous ravis de voir que nos populations sont rentrées, commencent à retourner progressivement. Comme vous le savez, la souffrance dans ces camps de réfugiés était immense. Il y avait quand même environ 10 à 15 morts par jour dans certains camps. Et nous sommes ravis que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue du Burundi, ensemble avec la communauté internationale représentée par le HCR, ont trouvé un arrangement spécial à travers cette tripartite. Et comme les compatriotes viennent de le dire précédemment, le gouvernement provincial du Sud Kivu travaille avec le gouvernement central et la société civile d'autres acteurs pour mobiliser les acteurs ainsi. Le Programme alimentaire mondial, le CICR, les ONG, notamment MSF, à travers la coordination humanitaire, sont déjà suffisamment mobilisés et des stocks de nourriture et de médicaments sont déjà en train d'arriver sur Uvira.
On sait que la situation sécuritaire est encore volatile à Uvira et dans les environs. Monsieur le gouverneur, qui assure la sécurité de ces retournés? La police nationale, le FRDC ou c'est plutôt le Wazalendo?
Non, les Wazalendo sont déployés sur les lignes d'opération. Il y a la police nationale congolaise qui est bien renforcée. Comme vous le savez, depuis que nous avons récupéré Uvira, il a plu au président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de doter nos forces de défense et de sécurité. Ainsi, la police a été renforcée par de nouvelles unités, des nouveaux équipements. Ils ont tout ce qu'il faut. Et donc, nous avons une forte présence de la police nationale congolaise, mais aussi de la police militaire. Uvira est sécurisé. Le camp de transit de Kavimvira qui accueille nos compatriotes qui rentrent des camps de réfugiés, il est sécurisé. Et voilà, les gens commencent à rentrer progressivement chez eux.
Merci. Mwalimu Mapenzi Manyeboa, vous êtes président de la synergie des sociétés civiles et mouvements citoyens d'Uvira. Comment vous percevez cette opération des rapatriements des réfugiés congolais à Uvira en provenance du Burundi?
Nous devons d'abord commencer par remercier la démarche du gouvernement congolais ainsi que le gouvernement burundi. On doit aussi dire que nous remercions les partenaires, notamment les ACR. C'est vrai, il y a beaucoup de défis que nous devons soulever parce que avant que nous puissions avoir les rapatriés volontaires, il y a eu un grand nombre de rapatriés spontanés et aujourd'hui nous comptons au moins 45 978 personnes rapatriées d'une manière spontanée. Et toutes ces personnes jusqu'à maintenant ne sont pas acceptées. Nous devons soulever aussi qu'il y a l'aspect de non-respect de certaines mesures humanitaires parce que en regardant la manière dont l'assistance a été organisée, on n'a pas vraiment tenu compte des éléments nécessaires pour rapatrier nos frères avec dignité. Donc, quelque part là, il y a eu l'erreur de procédure et surtout le non-respect de la protection des réfugiés.
Merci, Deo Gracias Bouma. Vous êtes analyste indépendant et directeur exécutif de l'ONG Action pour la paix et la concorde, APC en sigle, mais aussi CONAFOD. Et de votre point de vue d'analyste, vous pensez que les conditions sécuritaires sont réunies pour permettre le retour de ces Congolais?
Moi, je pense que dès lors qu'il y a la présence de nos FRDC, il y a la présence de la police, il y a aussi la présence graduelle de la communauté internationale à travers la MONUSCO qui va se redéployer. Je crois que il est temps que les gens rentrent parce que le retour aussi va contribuer à la construction de cette sécurité. Parce que la sécurité, c'est une affaire de tous et de toutes. Et plus les populations qui étaient réfugiées au Burundi rentrent, plus nous tous ensemble, nous devons nous souder les coudes pour que nous travaillons chacun en ce qui les concerne à la construction de cette sécurité, de cette stabilité que nous préférons tant.
Vous pouvez continuer de suivre Dialogue en Congolais sur www.radiokapi.net, également sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par Jules-Mister Bilandami, son nom par Jean-Claude Siala. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Excellente journée.